L'affaire Le Couvieur, mort tragique en Bretagne. Narration, Florent Houlier. Simuler un cambriolage qui aurait mal tourné pour toucher l'héritage. C'est le plan maléfique qu'a inventé la belle-fille du riche entrepreneur, Eugène Le Couvieur, pour dépouiller sa belle-famille sans paraître suspecte dans cette affaire. Dans la région, Eugène Le Couvieur est très connu. Cet homme politique local s'est également enrichi dans les années 60 et 70 en créant une société qui est rapidement devenue le leader français du matériel hospitalier. Il a revendu son entreprise en 1993 pour 60 millions d'euros. Dans la nuit du 9 au 10 avril 2009, Josiane Sidaner envoie deux hommes de main dans la riche demeure de ses beaux-parents, un couple de personnes âgées, pour s'emparer de leur argent. Eugène Le Couvieur, 90 ans, et sa femme Anne-Marie, 75 ans, sont malmenés, bâillonnés, séquestrés, violentés. Les cambrioleurs repartent avec un maigre butin, à peine quelques bijoux au prix d'un épouvantable drame. Ce qui semble être une simple opération d'intimidation et d'escroquerie vire au meurtre. Anne-Marie Le Couvieur décède dans cette tentative maladroite et ultra-violente d'extorsion de fonds. Et si ce meurtre était prémédité? C'est ce que vont essayer de découvrir les enquêteurs après avoir procédé à l'arrestation de quatre personnes. Tout commence le 9 avril 2009 dans le Morbihan. Le couple Le Couvieur vient tout juste de rentrer d'un séjour paisible dans leur résidence secondaire de Vence, dans les Alpes-Maritimes. La journée est déjà bien avancée. Anne-Marie tient tout de même à ranger quelques affaires avant d'aller au lit. Eugène est le premier à se retirer dans sa chambre à coucher. Sa femme reste encore un peu dans le salon. Elle voulait attendre la bonne heure pour passer un coup de fil à l'un de ses fils, Jean-Charles Hamon, qui vit en Guyane. Il y a 5 heures de décalage avec la métropole. Elle ne parvient pas à le joindre, lui laisse un message et part se coucher. Une dizaine de minutes plus tard, Anne-Marie est alertée par un bruit sourd provenant de la véranda. Deux hommes viennent de la fracasser à coups de hache. Très rapidement, ils s'attaquent à la porte du vestibule, attenant à leur chambre. Lorsqu'Anne-Marie s'y rend pour essayer de comprendre ce qu'il se passe, elle se fait fermement maîtriser par un individu portant des gants et une cagoule. L'autre individu s'occupe de son vieux mari en employant la même violence. Pendant que Eugène est plaqué au sol, puis ligoté, l'agresseur qui s'occupe d'Anne-Marie plaque pas moins de 21 morceaux de ruban adhésif sur son visage. Les deux cambrioleurs ordonnent à Eugène de leur indiquer la direction du coffre-fort de la maison. Le propriétaire des lieux tente de garder son calme. Il leur dit très honnêtement qu'il n'a aucun coffre, pas la moindre liquidité. Les deux hommes repartent aussi vite qu'ils sont venus. Le cambriolage n'a duré qu'une dizaine de minutes. Une fois le calme retombé sur la villa, Eugène se tourne vers sa conjointe. Il l'appelle. Elle ne répond pas. Par chance, Eugène parvient à se défaire de ses liens. Le vieux monsieur peine à enlever le ruban adhésif qui recouvre les voies respiratoires de sa femme. Cette dernière, ventre au sol, face contre terre, ne respire plus. Eugène se saisit du téléphone et prévient les secours. Il téléphone également à sa fille Catherine. Elle est la première personne parmi ses proches à arriver sur les lieux du drame, accompagnée de son conjoint. Malgré tous leurs efforts, les pompiers ne parviennent pas à réanimer Anne-Marie. Cette dernière est morte, asphyxiée dans son masque de ruban adhésif. Le major Christophe Le Gall, de la section recherche de la gendarmerie de Rennes, appuyé par le groupement du Morbihan, prend en charge l'enquête qui débute dans la même nuit. Vers 3 heures du matin, les autres enfants d'Eugène sont prévenus. Ils sont 3, Jean-Jacques, Philippe et Catherine, issus d'un premier mariage. De son côté, Anne-Marie avait également 3 enfants. L'entente était loin d'être cordiale. Mais d'abord, les enquêteurs veulent comprendre les circonstances de l'agression. Selon les propos d'Eugène, les cambrioleurs en voulaient à son argent. Le faible butin interpelle les gendarmes. Les deux individus sont seulement repartis avec la chaînette en or de Gênes, sa chevalière et quelques bijoux laissés en évidence dans la chambre, mais rien d'autre. Contrairement à ce qu'ils ont pensé, la villa ne recèle d'aucun coffre-fort, mais ils n'ont pas pour autant fait l'effort d'aller se servir dans le sac d'Anne-Marie. Son portefeuille contenait pourtant 200 euros en liquide. Plusieurs œuvres d'art de grande valeur, ainsi que de l'argenterie, étaient à portée de main. mais ils ont tout laissé tel quel. Ce n'est pas un voisin qui aurait pu les déranger. La villa, le moulin de la Chênaie, situé dans un hameau, est isolé. Peut-être cherchait-il un objet en particulier. Eugène Lecouviour n'en a aucune idée. En faisant le tour de la maison, les enquêteurs constatent que les deux malfaiteurs ont d'abord essayé de passer par la porte arrière, donnant accès à la chaufferie. Ils sont parvenus à fracturer la serrure. Ils ont également essayé de faire de même avec la porte menant à la cuisine. Ils n'y sont pas parvenus. Ils se sont donc ensuite rabattus sur la porte de la véranda. Celle-ci était munie d'une vitre anti-intrusion. Mais elle n'aura pourtant pas résisté à l'assaut d'une hache. Les gendarmes notent 9 impacts de hache sur la véranda. Le dernier impact a fait un gros trou dans la vitre, suffisamment grand pour permettre aux deux individus d'entrer. Les gendarmes retrouvent la hache plantée dans la partie supérieure de la baie vitrée. L'outil appartient à Eugène. Les cambrioleurs l'ont certainement trouvé sur leur passage et l'ont utilisé pour pénétrer dans la villa. Dans la salle à manger, l'un d'eux a dû se prendre les pieds dans une chaise. Les enquêteurs remarquent que l'une d'entre elles est par terre. Il y a des débris de verre partout. Certains débris ont dû s'accrocher aux vêtements. Les enquêteurs trouvent des traces de verre qui mènent à l'étage jusqu'à la porte du vestibule. Celle-ci est défoncée à coups de pied. On y relève l'empreinte d'une chaussure. C'est le seul indice dont disposent les gendarmes. Une simple trace de chaussure ordinaire. Les cambrioleurs ont pris leurs précautions. Ils se sont efforcés d'être prudents. Leur opération semble avoir été minutieusement préparée. Ils n'ont laissé aucun ADN exploitable. Les enquêteurs abandonnent rapidement la piste d'un cambriolage qui aurait mal tourné pour se pencher sur celle d'un crime déguisé, une mise en scène pour faire croire à un cambriolage. Il s'avère que ce masque de scotch a été minutieusement préparé à l'avance. Chacun des 21 bouts a été soigneusement collé les uns aux autres, de sorte à ce que la victime ne puisse plus du tout respirer. Pour s'assurer qu'Anne-Marie meurt asphyxiée, l'un des assaillants l'a aussi étranglée. En témoignent les traces bien visibles sur le cou de la victime. Son mari, Eugène, a lui été ménagé par les cambrioleurs. Il a été beaucoup moins brutalisé. Les liens autour de ses poignets n'étaient pas aussi serrés. Il a pu s'en libérer facilement. En revanche, les liens d'Anne-Marie ont été serrés tellement fort qu'ils sont rentrés dans sa peau. Le major Christophe Le Gall et son équipe sont à la recherche de plusieurs coupables. Tout indique qu'il s'agit d'un coup monté. Il s'intéresse en premier lieu aux relations familiales, entre les frères, les sœurs, les gendres et les belles-filles. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ambiance dans la famille est très mauvaise, et que les relations entre les enfants de cette famille recomposée ne sont pas meilleures. Anne-Marie Dréano, la victime, également connue sous le nom d'Annette, a déjà 3 enfants lorsqu'elle épouse Eugène, le 31 décembre 1983, par union civile. Cela fait déjà près de 10 ans que les deux amoureux forment un couple fusionnel. Eugène n'a jamais rencontré de difficultés avec les enfants d'Anne-Marie. En revanche, ce n'est pas le cas de ses propres enfants. Dès le lendemain des faits, lorsque les deux familles sont réunies dans les locaux de la brigade de recherche de Vannes, les fils d'Eugène et les fils d'Anne-Marie se toisent du regard. Personne n'exprime le désir de cacher cette rancœur qui dure depuis près de 30 ans. Seule Catherine Lecouviour ne semble pas avoir la moindre animosité envers sa défunte belle-mère. De questionnement en questionnement, les enquêteurs comprennent que l'héritage est au centre du conflit. Alors qu'Anne-Marie, la victime, femme divorcée d'un premier mariage, ne laisse pas derrière elle une extraordinaire fortune, son nouveau conjoint, Eugène, est à la tête d'un très beau patrimoine estimé à plusieurs dizaines de millions d'euros. Ses 3 enfants biologiques n'aimeraient pas les voir tomber entre les mains d'étrangers à la famille.